Bienvenue dans cette table ronde sur les lieux d'intelligence dans la science-fiction. Donc nous allons aujourd'hui parler justement de ces différents lieux d'intelligence que peuvent être dans la science-fiction, aussi bien d'ailleurs dans la littérature que dans le cinéma, mais peut-être plus d'ailleurs dans la littérature, que sont les universités, les écoles, les fondations, etc. On va y revenir donc relativement longuement. Alors pour cette table ronde, nous avons donc un certain nombre de participants. Je vous signale que nous avons un absent qui est Alain Bergeron, l'écrivain québécois qui, pour des raisons de santé, ne peut pas être présent à cette table ronde aujourd'hui. Donc, nous allons avoir Estelle Blanquet, je vais la présenter tout de suite après, Olivier Paquet, Joe Walton et Simon Bréant. Estelle Blanquet, Estelle est agrégée de physique, formatrice en sciences à l'ESPE de Nice et à l'Institut de formation de Genève. Et elle initie en particulier les futurs professeurs des écoles à la démarche d'investigation. Ses recherches en didactique des sciences portent sur l'élaboration des critères de scientificité pour la science scolaire. Et elle est également co-organisatrice des journées science et fiction de PERESCE, donc une chercheur en science-fiction. Bien, Olivier Paquet est écrivain et universitaire. Olivier, ça va comme ça ? Enseignant ?
On va faire avec.
Hein, voilà, et enseignant aussi. Donc, grâce à Richard Canal, il va publier son premier texte dans la revue Galaxy et il continuera d'y publier des nouvelles jusqu'à l'obtention du Grand Prix de l'Imaginaire pour Synesthésie en 2003. Philippe Curval, à propos de son premier roman Structura, écrira « Le plaisir de lecture réside d'abord dans l'habileté de l'auteur à traduire l'inexplicable ». Il présente donc une science-fiction très imagée, mêlant culture européenne et politique. Ensuite, donc, Joe Walton, que vous avez peut-être déjà rencontré dans les différentes tables rondes. Alors, Joe Walton est donc écrivaine du Royaume-Uni. Elle a publié une dizaine de romans, 3 recueils de poésie, une collection d'essais, en plus de 2 romans à paraître en 2015. Elle a rencontré le John Campbell Award dans la catégorie meilleur nouvel auteur en 2002, le World Fantasy Award en 2004, et ainsi que les prix Hugo et les prix Nebula en 2012 pour Among Others. Originaire du Pays de Galles, elle vit désormais à Montréal pour la qualité de la nourriture et de la littérature, c'est elle qui le dit. Et enfin, Simon Bréant est maître de conférences en littérature française à l'université Sorbonne Paris 4 et un grand spécialiste de la littérature de science-fiction française. Il a publié en 2012 « La science-fiction en France, théorie et histoire d'une littérature ». Il est également secrétaire de rédaction de la revue en ligne « Res Futurae » dont je vous recommande fortement la lecture des articles, revue qu'il a fondée avec Irène Langlais, et il s'est très récemment illustré dans l'écriture d'une nouvelle. Alors Simon, je ne sais pas si on peut parler de science-fiction ou de fantastique, puisque c'est une histoire de vampires dans la science-fiction. Le recueil s'appelle « Vampires à contre-emploi ». Voilà. Donc nous allons commencer maintenant cette table ronde avec justement une première question à nos participants sur la science-fiction va proposer souvent des lieux de diffusion du savoir ou des lieux de formation spécifiques, stratégiques ou idéologiques. Je pense par exemple à l'Institut ou à la Fondation de la Psychohistoire, donc dans le cycle de fondation chez Asimov, ou encore une école de guerre spatiale chez Card, ou encore les institutions par exemple de chronique au pays des mers, donc de Elisabeth von Harburg. Donc la question que je vais vous poser, c'est est-ce que peut-être vous pourriez nous proposer ou nous brosser chacun un tableau, ou est-ce que vous avez une préférence peut-être pour une école ou je dirais un lieu de savoir dans la science-fiction. Estelle ?
Oui. Alors, est-ce que le micro
ne marche pas ?
Ça y est ? Non, ça y est.
Non, toi, ça marche.
Allô ? Non.
Oui, puisque j'ai l'occasion de parler d'une école en science-fiction, moi, une école qui me plaît beaucoup, c'est l'école de Space Cadet de Robert Heinlein. Alors, pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que c'est une école qui est relativement exigeante. Alors, Elle s'adresse, il faut le dire quand même, il faut le reconnaître, à une élite, puisque les élèves qui entrent dans cette école sont sélectionnés, mais la plupart du temps, dans les ouvrages de science-fiction, d'une manière ou d'une autre, on a des élèves un peu particuliers, je dirais. Mais ce qui est intéressant dans cette école, je vous recommande la lecture de Space Cadet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un roman jeunesse de Heinlein, c'est que dans cette école, les élèves sont amenés évidemment à apprendre beaucoup de physique, parce qu'ils vont devenir des gardiens, en quelque sorte, du fonctionnement de la Terre et la galaxie d'une façon plus générale. Mais surtout, dans leur éducation, on leur demande en permanence d'être critiques par rapport à l'enseignement qu'ils reçoivent. Et ça, on trouve ça très rarement dans les univers de formation d'apprentissage en science-fiction, des écoles où on exige quasiment des élèves qu'ils soient capables de réfléchir sur les valeurs qui fondent l'éducation qu'ils reçoivent elles-mêmes. Et voilà, c'est un peu cette image d'une éducation qui réfléchit sur elle-même ou qui impose à ses élèves de réfléchir sur la façon dont on leur apprend les choses, que je trouve assez fascinante.
Justement, on reviendra sur cette notion-là parce qu'on se rendra peut-être compte que dans la science-fiction, les lieux de savoir sont peut-être aussi et avant tout des lieux de critique ou des lieux d'émergence, on va dire, d'une certaine singularité. Olivier ?
Oui, sur le... sur le... comment ? Des différentes écoles ou universités. Je vais dire que... quelle école je préfère, par exemple, c'était la première question.
Oui.
Donc je vais dire la mienne, parce que sur le sujet, j'ai créé, à travers le Melki, une école université, un vaisseau université. Et justement, on parlait des rebelles. C'est une université qui, finalement, dans un univers qui est constitué essentiellement d'humains, il y a juste une race d'extraterrestres, c'est une université qui crée des extraterrestres. C'est-à-dire qu'on prend des individus, cette société qui s'appelle l'expansion, donc chaque planète a une sorte de culture de type indien ou de culture austro-hongroise ou autre chose, mais... il y a une sorte de conditionnement culturel. On programme les enfants pour qu'ils aient intuitivement, inconsciemment, les principes de ces cultures. Mais sauf que sur ces planètes, il y a toujours des individus, des enfants, des adolescents qui sont un peu différents. Et donc l'idée de cette université, c'est de collecter ces individus différents qui sont justement en dehors, qui échappent à ce conditionnement, pour les emmener dans l'espace et pour qu'ils apprennent à être universels, d'une certaine manière. L'idée, c'est donc qu'ils sortent, ils quittent leur culture, ils vont se départiculariser, d'une certaine manière, et en se départicularisant, en atteignant une sorte d'universel, ils pourront aussi, plus tard, soit vivre dans l'espace, ou même se réimplanter sur une planète, parce que, comme ils sont devenus, d'une certaine manière, universels, ils peuvent être bien dans n'importe quelle culture. Donc l'idée, c'est il y a un aspect très européen dans cette conception des écoles, de cet universalisme, c'est très même français, comme le modèle que j'ai utilisé, je ne peux pas le cacher, c'est un peu ce que j'ai vécu dans ma propre formation quand j'étais à Sciences Po. Donc d'avoir un accès à des tas de domaines et d'avoir une vision... large des problèmes, global des problèmes et pas particulière ou particulariste. Donc j'essaie de transférer ça dans l'espace. C'est le modèle que j'ai voulu transmettre à travers le Melkin, même si toute la trilogie, c'est aussi une remise en cause de ce modèle, qu'en fait, ce modèle pose aussi ses propres problèmes. Toute la trilogie montre que ce modèle a des limites.
Donc, c'est ça. Olivier, pour le public, donc c'est la trilogie du Melkin.
Voilà.
Voilà. Donc que tu as écrit...
Voilà, donc justement j'interroge cette question aussi de la place de cette université spatiale à l'intérieur d'un monde qui est en train de se modifier à partir du moment où il y a l'invention de la communication instantanée, donc d'un accès instantané à des flux de communication, et donc de la pression que l'on a, que nos cultures ont et que l'intelligence à travers la société ont face à l'extérieur. Donc tout d'un coup l'extérieur arrive et que ça modifie les équilibres.
Moi, j'aime beaucoup cette idée du vaisseau université. Bon, évidemment, on en est encore très très loin ici, mais bon, c'est ouais, peut-être
c'est le vaisseau école.
Voilà, une c'est belle. Non, mais vaisseau université, c'est une belle image, je trouve. Joe Walton, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez une image justement de pour vous particulière d'une école ou d'une université dans la science-fiction?
Okay, you mentioned the foundation, Asimov's. Foundation in the Foundation trilogy, and I think that's a very interesting science fictional image of a place of learning, because it's set up initially in the book as being this wonderful thing, and it is the Foundation, and they can do psychohistory, and they're going to go to the edge of the galaxy and compile an encyclopedia so that civilization won't fall. And then later it's revealed that this is just the first stage in the plan, and that there is a hidden foundation within the foundation, and that the university that you've thought, the project that you have thought is be-all and end-all, is just a minor part of the big plan. And I think that's very symbolic of education, because education is a beginning, it's not an end. And I think a lot of the things, certainly Space Cadet that you mentioned, and you mentioned also Ender's Game and the Space Academy, you have education as a stage in the life of a character that the character then leaves and moves on. And in the Foundation books, it's the whole society that goes beyond that stage. And I think that's a very interesting example.
Ok, thanks. Simon ?
Alors, en ce qui me concerne, ce qui pour moi représente le lieu d'éducation qui m'intéresserait le plus, celui auquel je voudrais appartenir, c'est l'école des X-Men. En fait, les X-Men me semblent, de ce point de vue-là, représenter à la fois d'un point de vue de l'évolution des représentations et du point de vue, au départ, de l'intérêt, de l'attraction que peut représenter l'idée d'une éducation de science-fiction, même si, bon, ce sont des super-héros, on n'est pas exactement dans quelque chose du type de Space Cadet, ça représente quelque chose qui cristallise pas mal de choses. D'une part, c'est un type d'enseignement qui, au départ, s'adresse à des gens qui sont des réprouvés, qui ne trouvent pas leur place dans la société, et qui, d'une certaine façon, sont des espèces de geeks. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne trouvent pas leur place parce qu'ils sont perçus comme trop exceptionnels, mais d'une mauvaise manière. Or, ce qui me semble le plus fascinant dans la manière dont, au départ, dont l'évolution de cette représentation s'est faite, c'est qu'il y a eu, en même temps que la culture geek s'est répandue dans la société, bon, d'une manière diverse dont on peut discuter, eh bien, il y a en même temps eu une évolution dans la représentation de cet enseignement qui est donné aux X-Men. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation où finalement les premiers X-Men sont des individus qui sont très jeunes, qui ne peuvent pas maîtriser vraiment leur pouvoir, qui doivent s'entraîner tout le temps, qui doivent faire leurs devoirs, qui ont un respect absolument intégral pour la figure du professeur Xavier, qui est une espèce d'intelligence supérieure, qui est le professeur parfait en fait. Progressivement, il y a eu une émancipation de cet aspect-là. On a mis les différents scénaristes ont mis en arrière-plan en fait toute la question enseignement pour transformer finalement cet endroit en une espèce finalement de couverture. Hein. Il y a eu un moment où c'était simplement un lieu d'habitation, une base secrète comme une autre. Mais régulièrement revient au premier plan, dès qu'on introduit notamment des personnages qui sont un peu plus jeunes, revient en question la question de l'enseignement, de ce que c'est qu'apprendre à maîtriser ses capacités, à réaliser son potentiel. Et ce qui me semble caractéristique donc de l'expansion de la culture geek de ce point de vue-là, c'est que actuellement la représentation de l'école des X-Men, je pense surtout au film qu'il y a pu y avoir. Mais c'est un petit peu vrai aussi des comics, même si je les suis moins actuellement, est beaucoup plus valorisante. C'est-à-dire que finalement, faire partie de cette école, c'est un endroit de rêve. Tout le monde aurait envie d'en faire partie, alors qu'au départ, c'était vraiment une espèce de lieu où on allait parce qu'on n'avait nulle part ailleurs où aller.
Oui, un ghetto.
une espèce de ghetto, mais de ghetto pour, comme c'était présenté, pour les gens qui avaient des dons spéciaux, de specially gifted, ou quelque chose comme ça. Et ça me semble ici caractéristique du fait qu'il y a une valorisation même de cette différence, de ces capacités, et qu'il n'est plus possible, ni plus porteur, de représenter vraiment cette école comme une école d'individus exclus, en fait. Donc ça me semble intéressant comme exemple. Enfin, c'est un des exemples qui me vient à l'esprit dans la question de l'éducation, sachant que on n'apprend pas seulement à se battre dans l'école des X-Men, enfin du moins dans les versions que je connais. Il y a un travail extrêmement important en termes scolaires, en termes académiques. Et ce qui, un dernier point qui me semble quand même remarquable, c'est que l'enseignement est peu à peu prodigué par les élèves de l'école elle-même, les anciens élèves, c'est-à-dire que ceux qui avant étaient les élèves deviennent les professeurs. C'est-à-dire que c'est une espèce de rêve d'éducation en autarcie où on n'a pas besoin d'aller chercher des gens où que ce soit, on trouve d'excellents enseignants dans les gens qu'on a formés, avec une espèce de cercle vertueux qui permet d'envisager une espèce de réussite quasiment à 100% des capacités d'éducation. Donc ce qui va de pair avec des choses qui ont déjà été évoquées par mes camarades ici, c'est-à-dire le fait que finalement on met surtout en avant des individus qui sont au départ des individus d'exception. C'est assez facile aussi de représenter un enseignement qui marche quand ceux qui sont sélectionnés sont surtout des gens exceptionnels.
Donc finalement, d'après les quatre exemples que vous avez choisis, la science-fiction se proposerait peut-être, je dirais, de créer une sorte d'utopie de l'éducation à travers une forme, évidemment, je pense à l'exemple de fondation, donc des personnages de très très haut niveau, capable donc d'envisager un avenir de la façon la plus logique possible, finalement des individus sélectionnés malgré leur mutation, hein, et peut-être donc les meilleurs individus possibles, une école, enfin les deux écoles chez Einstein et puis chez Olivier, qui permettraient donc d'ouvrir à la singularité, d'ouvrir à l'autre. Donc ça, c'est peut-être une première image qui va effectivement se dégager des lieux de savoir dans la science-fiction à travers ces exemples, hein, qui sont des exemples très, très divers. Et alors moi, je voudrais vous interroger sur quand même quelque chose qui est très présent, notamment dans la science-fiction, je dirais peut-être un petit peu plus militariste, qui est, et je pense vraiment chez Carte, parce que ça, c'est un exemple qui m'a fortement marqué dans sa lecture et puis dans sa représentation filmique. Mais finalement, ces super écoles militaires, et notamment celle qui est présente donc dans la stratégie Ender, qui vont se servir justement des extraordinaires facultés de leurs élèves pour détruire des mondes, détruire un monde. Donc ça, finalement, on est très très loin de l'utopie éducative. Donc, d'après vous, quelle autre image du savoir véhicule la science-fiction, ou d'éducation, ou de la formation, à travers cette vision plus guerrière, plus militariste, voilà.
Je peux réagir en premier. En fait, je dirais, si on met d'un côté l'utopie, la dystopie n'est jamais très loin. Et d'une certaine façon, il y a ce syndrome de l'idée de la société militaire ou militarisée, fonctionnaliste, qui va pouvoir utiliser les individus comme des rouages dans une machine. Et de ce point de vue-là, la capacité de formation des individus dans une entreprise militaire, elle a ceci de particulier dans le cas de Ender, de la stratégie Ender, qu'on représente des individus qui sont normalement au sommet, c'est-à-dire des officiers, là où le plus souvent on a un peu tendance à adopter le point de vue du troufion, du soldat qui ne sait pas forcément très bien dans quoi il s'engage. Einstein est encore un représentant de cette logique-là, de ce point de vue-là. Et je dirais que ça... Dans le cas de la représentation, là on touche à un autre aspect, qui est le problème de la représentation de l'enseignement. Qu'est-ce que c'est que de représenter un enseignement ? Olivier, de ce point de vue-là, aurait sans doute des choses à dire, puisqu'il a tenté des choses particulières dans le Melkin, mais il me semble qu'il y a une limite vite atteinte, enfin du moins quelque chose que la plupart des auteurs ne cherchent pas à contrebalancer, qui est que finalement on ne peut pas restituer facilement tel quel un enseignement. Je pense à cette séance, par exemple, caricaturale, mais volontairement, dans Starship Troopers, dans le film Starship Troopers, où on voit une espèce de à l'américaine, une séance de discussion avec le professeur, mais qu'est-ce que c'est que la vertu, qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen, et ainsi de suite. Bon, une espèce de leçon d'éducation civique en action. Mais là, encore une fois, à l'américaine, c'est-à-dire qu'on a un dialogue, on a quelque chose d'actif, et on a le sentiment qu'il s'est réellement passé quelque chose. Mais c'est-à-dire qu'on est du côté de l'action. On n'est pas du côté de la formation. On n'est pas, ou alors la formation par l'action, mais en tout cas, on est du côté de l'action et non pas du côté du savoir pur. Et là, c'est une des limites de la représentation, c'est que finalement, il n'y a rien, me semble-t-il, de plus sinistre pour un lecteur ou un spectateur que de se voir asséner des principes, des grands principes. Et donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, que ce soit une formation en action.
Olivier ?
Oui, en plus, dans les écoles, notamment si on a une école d'élite, dans le cas du Meltin, ce sont des gens qui ont été sélectionnés parce qu'ils étaient curieux par-dessus tout. Donc c'est leur principe. Mais d'un autre côté, on peut se demander aussi, j'ai écrit un texte là-dessus sur l'origine du Meltin qui sera publié un jour, c'est que on pourrait même se demander l'utilité des professeurs. C'est-à-dire que ces élèves sont tellement intelligents et ils ont accès sur ce navire à toutes les connaissances possibles, c'est-à-dire il faut savoir que comme c'est un navire interstellaire qui se déplace donc à une portion de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire que l'essentiel du parcours des élèves se situe en suspension, enfin ils ont un système, plus que la partie où ils sont en orbite où est très courte durant leur formation. Donc ils doivent, durant leur parcours, durant l'accélération du navire, être dans ce lieu livrés à eux-mêmes avec une sorte de simulation où ils se font leur programme eux-mêmes, ce programme de curiosité, de lecture. Donc on pourrait se demander aussi quelle est la place des enseignants, par exemple, dans un vaisseau spatial interstellaire avec tout le problème de la distance à partir du moment où il n'y a pas de possibilité d'aller plus vite que la lumière, donc on doit parcourir. Donc ça aussi, la question de... À un moment, d'ailleurs, les professeurs... Donc il y a toujours un professeur qui se plaigne de la baisse du niveau des élèves. Donc ça, c'est un invariant du professeur. Et à un moment, le doyen lui dit « Non, mais en fait, ces élèves sont tellement n'ont pas besoin de vous et que finalement, là où on a besoin de vous, c'est sur les élèves faibles. Mais ces élèves faibles sont quasiment inexistants sur le Meltin. Donc ça pose aussi un problème. Que faire avec des élèves qui, finalement, en fait, l'essentiel du Meltin, c'est d'exfiltrer. C'est l'acte, il est là, d'exfiltrer ces individus de leur culture pour qu'ils atteignent l'universel, de les séparer de leur culture donc, et des contraintes que cela pèse. Mais sinon, quasiment, ces élèves peuvent vivre en autonomie à partir du moment où ils ont accès à la connaissance.
Alors, au-delà...
I've just sort of an interesting example of that. This is not a military example, but Frederick Pohl's The Gold at the Starbow's End, or the novel version of it is called Starburst, where the idea was that somebody claimed that they'd found a planet at Alpha Centauri, and they sent off humanity's most intelligent people to explore it. And the truth is there's no planet there. But what they wanted was to send these people off on their own in a spaceship so that they would discover stuff, which in fact happens, because they've created this crucible environment in the spaceship where they're isolated and they've got the opportunity to learn from each other, and it's all set up so that they will. And they do, but not quite in the way that Earth intended. So that's another example of that, and a very science fictional one. And it's quite early. I don't remember what year the short story is, but it's early 70s, I think. So it's quite an interesting example of a way of thinking about education.
Justement, la question que moi je me suis posée en réfléchissant, au-delà de la représentation, finalement, ces représentations, ces lieux d'intelligence dans la science-fiction nous amènent vers une forme particulière du roman de science-fiction, puisque en intégrant l'école, on intègre également le parcours d'un élève ou de plusieurs élèves. C'est-à-dire qu'en fait, on fait du roman de science-fiction une sorte de roman d'apprentissage. Mais roman d'apprentissage, finalement, science-fictionnel. Alors, question que je voudrais poser, puis je reviendrai après vers Estelle. Question que je voudrais d'abord poser à nos deux écrivains et à Joe. Est-ce que pour vous, il est intéressant de créer justement un roman d'apprentissage de science-fiction en mettant en scène des élèves et en mettant en scène un lieu de savoir?
This isn't something that I've ever done. And when you were asking for examples before, most of the examples of places of learning that I could think of fictionally are fantasy ones. You immediately think of the College of Wizards on Roke in the Earthsea books and Hogwarts in Harry Potter. And there's a whole load of fantasy ones. And most of the science fictional ones I can think of are military, like the Barry Yar example and COD, and Space Cadet. They're military training academies, perhaps because of what you said about needing to have action, and sort of the opposite of what you're asking, that it's difficult to represent learning when it's not spectacular. But I can think of examples. There's Sylvia Louise Engdahl's This Star Shall Abide, also known as Heritage of the Star, no idea about a French title, is about taking a culture that really needs its intelligent people and taking those intelligent misfits as the people who commit heresy to the very rigid culture. And those people who have committed heresy think that they're going to be punished, and in fact they are educated. And in the end they have to recant their heresy as part of this process of education. So that's an interesting example of learning the world as the characters go through the education process, which you could almost call a re-education process. And you, the reader, learn the world along with them. So yes, that is a good way of doing that. But I've never done this myself in a science fiction context. And while I have, which I guess is why I'm on this panel, there's a boarding school in my novel, among others, with the French title Morwenna. But it's not a magical boarding school or a science fictional boarding school, and the school is, in fact, more of an obstacle. It's more of a problem for the character than it is an opportunity to learn. She's learning despite the school rather than with the school. And my new novel, which is also fantasy, which is coming out in January, The Just City, is in fact about an educational location. It's about people setting up Plato's Republic, so it is about young people learning within Plato's Republic. And it very much is doing that. But not as a way of learning the world, but as a way of talking about exactly what you just said was boring, about learning virtue. And excellence, but I believe I do have some action in this book. I don't think it's dull. But I think that as a reader, when you're reading about other worldviews, reading people learning about those worldviews and being indoctrinated in them is an interesting way of approaching that.
Oui, sur cette question du roman d'apprentissage, moi c'est un cas un peu particulier parce que j'étudie les mêmes... En fait, c'est une trilogie où je prends les mêmes personnages à 15, 30 et 45 ans. Donc la premier tome qui est ce roman qui se situe sur le Melkin où on suit l'apprentissage, ce qui m'intéresse finalement c'est qu'ensuite on ait la vue totale sur ces 30 ans et qu'on voit finalement comment ont évolué ces personnes par rapport à ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont gardé de cette école, ce en quoi ça les a modifiés ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce roman. J'aurais très bien pu, enfin, d'ailleurs j'ai des histoires où on a les anciens élèves, parce que beaucoup de choses se passent sur les anciens élèves du Melkin, sont des individus qui sont importants, qui agissent dans ce monde. Donc c'est pas obligé de passer par ça, mais là, poursuivre ces personnages, ce qui m'intéressait dans l'étude de ces personnages, c'est de voir est-ce qu'ils étaient fidèles à ce qu'ils ont appris ou pas, ce genre de rapport-là qui m'intéressait. Pas simplement, c'était pas obligé, Il y a eu toute une discussion avec mon éditeur de se dire est-ce que finalement c'est utile de mettre en scène cette vie sur le mannequin ou est-ce que ça doit rester quelque chose de non dit. Non, parce que je voulais que ça apparaisse pour qu'on comprenne les personnages et leur évolution et en quoi il y avait un aspect tragique dans ce qui leur arrivait après à 30 ou 45 par rapport à ce qu'on savait d'eux lorsqu'ils étaient sur le navire. Donc c'est ça la différence dans mon cas.
Oui, donc finalement, pour les écrivains, il y a un aspect didactique, quasiment pédagogique dans le choix justement de ces romans qui mettent en scène donc des écoles et des parcours individuels au sein de ces écoles ou de ces universités. Alors une question pour Estelle justement, parce que je crois que Estelle travaille sur les rapports entre science-fiction et didactique, il me semble. Voilà. Est-ce que finalement ce type de roman, est-ce que ce type de roman finalement d'apprentissage science-fictionnel, c'est un bon exemple, parce que c'est un bon support pédagogique d'après vous?
Alors, pédagogique pour des enseignants, c'est à explorer. J'ai envie de dire, en revanche, qu'il y a des auteurs de science-fiction qui délibérément choisissent de présenter dans leurs ouvrages des systèmes éducatifs plus ou moins efficaces, je dirais, pour les élèves qu'ils vivent, pour aider. Enfin, je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, je connais au moins un d'auteur pour qui c'est fait de façon volontaire, pour aider leurs lecteurs à prendre conscience qu'il y a différentes façons d'apprendre et que certaines façons sont plus ou moins perverses parfois, plus ou moins efficaces, et qu'on peut agir soi-même en tant que jeune sur sa propre éducation. Je pense à Heinlein encore, qui a écrit énormément de romans pour la jeunesse, et dans ses romans pour la jeunesse, il avait un certain nombre d'objectifs très clairs de diffusion de la culture scientifique, mais pas seulement de la culture scientifique. Il voulait vraiment aider ses lecteurs à se construire en tant qu'adultes, futurs citoyens dans un monde en évolution. Et l'un de ses objectifs, c'était de convaincre la population américaine, en tout cas à l'époque, qu'il fallait aller sur la Lune. Et pour faire ça, il a proposé dans ses différents romans des types d'enseignements très différents. Je pense évidemment à Space Cadet, dont je parlais tout à l'heure, qui est un roman où on a des élèves qui vont devenir des protecteurs en quelque sorte de l'ensemble de la population. Et dans ce cadre-là, il montre une éducation vraiment modèle, avec des enfants qui sont soumis à des épreuves très, non pas très, très pas violentes, parce qu'il n'y a pas du tout de violence, il n'y a rien de tout ça, c'est vraiment de la réflexion. On leur demande de réfléchir sur la façon dont ils sur ce qu'ils vont être et sur la façon dont ils peuvent fonctionner avec d'autres, avec effectivement une volonté de tolérance et de recherche de compréhension de l'autre. Mais on a d'autres exemples de Heinlein, de systèmes un peu moins efficaces, en particulier dans Half Space Will Travel. Il est sorti il n'y a pas très longtemps en livre de poche, le titre en français. Bon, en tout cas, c'est un roman dans lequel le héros veut aller sur la Lune, très clairement, et il va gagner une combinaison spatiale. Le problème de ce héros, c'est qu'il a un papa génial, hein, un papa mathématicien, qui fait complètement confiance au système éducatif. Il fait tellement confiance au système éducatif qu'il ne regarde pas ce que fait son petit en classe, puisque de toute façon, tout va bien. Et on est dans un système, je ne sais pas si vous voyez le lien avec ce qui se passe parfois aujourd'hui, mais on est dans un système où finalement tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans la mesure où de toute façon tous les enfants sont géniaux et tous les enfants réussissent. Et son enfant a 13, 14 ans, même un petit peu plus, il est plutôt sur 15, 16 ans. Et d'un seul coup, il va ouvrir les livres de son fils, qui est heureux à l'école, hein, qui est vraiment heureux à l'école, et il va se rendre compte qu'en fait, il n'a rien appris. Et rien appris dans le sens où il a appris à vivre en société et à être conforme à ce que la société attend de lui. Mais en revanche, en termes de compétences techniques, en termes de compétences à agir sur le monde, là, il y a un certain nombre de problématiques. Et il va pointer du doigt un certain nombre de devoirs qu'on demande à faire à son enfant. En particulier, un des devoirs qui est de construire une charte de la façon dont on doit se comporter dans la famille.
et une réflexion sur le système familial. Et effectivement, le gamin en question, qui n'est pas idiot, hein, va commencer à réfléchir sur ce qu'on lui demande à l'école et se dire, oui, finalement, si je veux faire quelque chose un peu plus tard, il va falloir que j'aille un peu plus loin par moi-même. Donc bon, il est aidé, cet enfant, et du coup, dépasse le système éducatif qu'on lui impose pour intégrer, pour lire tout simplement, et en lisant, réintégrer ce qu'il n'a pas eu par l'enseignement direct. Mais quand on fait ça dans un livre, et qu'on propose ce livre à des adolescents, ça peut amener des élèves à réfléchir sur la façon dont on leur enseigne, et à se demander, est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin pour pouvoir fonctionner dans la société. Donc on a ce type de système défaillant, entre guillemets, qui est mis en scène, pour aussi aider les élèves et lecteurs à réfléchir sur la façon dont ils apprennent et dont ils pourraient améliorer leur propre éducation.
Et peut-être éducation. À prendre de la distance aussi, finalement, par rapport au système éducatif.
Have you, on that subject, have you read John Barnes' Orbital Resonance? Because that's, I think, very much in dialogue with Half Space Suit. And it's about a girl who is 13 on a spaceship... looping through the asteroid belt, doing various stuff. And it's very much about her day-to-day problems with her love life and her friends and people bullying each other and so on in school. But it's also very much about the educational system where everybody's ranked cooperatively. And it's sort of really taking Heinlein's ideas and sort of arguing with them in quite an interesting way. I think that book, Orbital Resonance, I think it would be very interesting to you to look at in connection with Half Space Suit and what Heinlein says, and also with Space Cadet.
Alors, ce que vous êtes donc en train de dire là me fait penser également justement au rôle de ces lieux de savoir, parce que finalement on a une grande diversité par rapport à ces lieux de savoir. Je vais donner donc trois exemples sur lesquels nous sommes déjà un petit peu revenus. Par exemple, dans le roman de Elisabeth von Harburg, donc Chronique au pays des mers, on a une fonction éminemment idéologique finalement de l'université dans Chronique au pays des mers, puisque nous sommes donc dans un monde qui est dominé par les femmes, conduit par les femmes, et on apprend finalement aux enfants, essentiellement d'ailleurs des filles, à ne parler qu'en utilisant le féminin, que la marque du féminin. Et donc l'école ici a une fonction à la fois idéologique et linguistique extrêmement forte, positive. Bon, le deuxième exemple que je prendrai, ou les deux exemples, alors un exemple qui va peut-être vous faire un petit peu sourire, mais auquel on n'a pas forcément pensé, c'est tout simplement l'école des Jedi dans Star Wars. Bon, parce que cette école des Jedi, finalement, elle nous est présentée dans la trilogie, ou même dans les six œuvres cinématographiques, peut-être comme un véritable échec, puisque finalement... les Jedi n'arrivent pas, leur formation n'arrive pas à leur faire, je dirais, à détruire finalement la force du mal, et il n'en reste plus qu'un à la fin. Donc on peut se poser la question finalement de l'efficacité et des valeurs idéologiques qui sont portées finalement par ce type, de formation. Et puis troisième exemple, qui est un exemple dans Étoile garde à vous, alors je n'ai plus le titre en anglais, c'est Starship Trooper. Voilà. Voyez, ça c'est la littérature, la spécialiste de littérature française qui parle. Donc dans Étoile garde à vous, où là nous sommes dans une, évidemment c'est une école militaire, mais où il y a donc une empreinte extrêmement forte idéologique, puisque l'ennemi ne peut être que mauvais et doit être détruit. Or finalement, dans le parcours donc des jeunes cadets, on se rend compte que petit à petit, ils vont prendre conscience que ce n'est finalement que du lavage de cerveau idéologique, et que finalement ce lieu de formation n'a strictement servi à rien. Donc l'idée est sur laquelle je veux finalement peut-être vous poser la question, c'est est-ce que ces systèmes-là, est-ce que quand le lieu de savoir dans la science-fiction est idéologique, est-ce qu'il est finalement efficace, est-ce qu'il sert?
Mais j'ai du mal à saisir un système éducatif qui... Enfin, dans une institution qui ne serait pas finalement idéologique. L'école de la République a été idéologique d'un bout à l'autre. Tous les systèmes éducatifs sont plus ou moins idéologiques. La question, c'est...
Quelle idéologie ?
quelle idéologie, mais tout système, à partir du moment des principes, on veut créer finalement, on prend une masse qui est censée être informe dans le sens où on ne sait pas où elle va et on lui donne une direction. Donc c'est quand même quelque chose qui idéologique. Donc j'essayais de me demander quelle forme d'éducation pourrait ne pas être idéologique, même si...
Alors, en fait, je dirais que c'est moins la question de savoir s'il peut y avoir une éducation sans idéologie que la question de savoir dans quelle mesure la personne qui... l'auteur qui choisit de représenter l'école met en avant l'aspect idéologique ou non. Parce que finalement, lorsque Asimov envisage la technocratie bienveillante de fondation, tout ce qui est de l'ordre de l'idéologie est totalement incontestable dans son cadre de référence. Et dans la plupart des exemples positifs qu'on a apportés jusqu'ici, effectivement, ces aspects-là sont mis à l'arrière-plan. Mais effectivement, ce que ça pointe là, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de lieux d'éducation dans la science-fiction qui sont représentés à des fins critiques, et absolument pas de manière un peu irénique comme on a pu le faire depuis le début. Enfin, disons, on a plutôt choisi des exemples positifs. Mais effectivement, il y a de très nombreuses occasions de critiques concernant l'éducation. Et notamment, il y a ce fait que, et c'est un petit peu, enfin, ça fait écho à chose que Joe Walton a pu dire, c'est le fait que il y a des intrigues, un certain nombre d'intrigues qui se construisent comme des rébellions face à des institutions. C'est-à-dire que il y a ce problème, cette tension, c'est que c'est pas le bon élève, enfin, c'est souvent pas le bon élève qui va être le héros. C'est-à-dire que, bon, dans le cas de Ender, c'est le bon élève, mais c'est un petit peu malgré lui, en quelque sorte. Ce n'est pas exactement un bon élève, c'est quelqu'un qui est au-dessus du bon élève. Ce n'est pas celui qui fait ce que ses professeurs attendent de lui, c'est celui qui arrive à dépasser ce qu'on attend de lui, et qui arrive à faire encore mieux, qui arrive à sortir des cadres. Bon, et ça, c'est simplement la manière de représenter en général le héros. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a régulièrement des moments où, comme d'autres cadres, hein, ça peut être la police, ça peut être l'armée, ça peut être toute institution, en fait, où tout d'un coup l'institution ne suffit plus, ne peut pas reconnaître la valeur, et donc on va sortir de ce point de vue là et c'est un petit peu la logique de Chronique des Pays des Mers, c'est qu'effectivement le personnage principal suit une éducation et accomplit son éducation, mais c'est une éducation qui lui fait prendre conscience des limites des cadres qu'on lui impose et qui voit le potentiel de sclérose ou de réaction qu'il y a dans le fait de suivre simplement des préceptes dogmatiques qui lui sont imposés dès le départ. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est dans une dynamique de narration que ça intervient, c'est-à-dire que on a à ce moment-là les questions idéologiques font surface quand effectivement il s'agit de remettre en cause l'institution. Quand elle marche bien et que tout va bien, à ce moment-là il y a ça. Mais pour réagir à la question d'Ayn Line et du modèle du personnage comme ça qui tout d'un coup se rend compte que non, l'école ne marche pas assez bien ou qu'elle ne forme pas les génies du futur, il y a aussi cette tendance, et ça on sort un petit peu la question des lieux en tant que tels, mais justement c'est leur absence. C'est qu'il y a quand même beaucoup de récits de science-fiction qui représentent une forme de surhomme autodidacte. C'est-à-dire que finalement, ça n'est pas en passant par l'université ou par une école ou quoi que ce soit qu'on devient quelqu'un de formidable. Et de ce point de vue-là, Van Vogt, c'est un des plus fabuleux de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il a des personnages qui se sont formés un peu tout seuls. Et je pense quand même à une figure particulière qui est la figure du nexialiste dans La Faune de l'espace. Le nexialiste qui est à la fois une espèce de... donc c'est quelqu'un, le nexialisme, c'est la capacité à associer tous les savoirs entre eux, hein, trouver des points d'intersection entre tous les savoirs et donc faire une sorte de méta-savoir. Et bien le nexialiste, et bien, c'est d'une certaine façon celui qui n'a plus besoin du tout d'université et qui au contraire passe son temps à expliquer à tous les scientifiques qui sont autour de lui comment ils peuvent mieux travailler en tout simplement en arrêtant de penser de manière disciplinaire et en fait en arrêtant de penser dans un cadre qui est celui de cadre de l'éducation et en pensant d'une manière générale, voilà, en sortant de l'éducation.
Bien, merci Simon. Alors, dernière question, parce que je vois que l'heure passe, c'est que après on va garder un petit temps pour les questions. Donc finalement, si je suis donc vos dernières remarques, moi je dirais les lieux d'intelligence dans la science-fiction.
sont finalement les marqueurs d'une aventure collective ou d'une aventure individuelle. C'est-à-dire que, est-ce que l'aventure va porter sur ce lieu d'intelligence, cette école, ou plutôt sur la singularité d'un individu qui va sortir de l'école ou qui va finalement se former en dehors de l'école? À votre avis. Estelle?
Alors, j'ai déjà beaucoup parlé, temps que les gens récupèrent leurs esprits, je dirais qu'il y a évidemment tous les cas de figure qui peuvent être envisagés, mais que la logique de l'apprentissage, c'est qu'il y a un moment où il faut que l'oiseau vole de ses propres ailes. Et en un sens, l'éducation d'Ender ne s'arrête pas pour Orson Scott Card à l'université militaire. Et ce qu'il apprend, c'est aussi à devenir la voix des morts, et ainsi de suite. Et apprentissage qu'il fait par lui-même, en quelque sorte. Et là, on retrouve la logique, non pas là de l'autodidacte à proprement parler, mais du fait que il y a, enfin, que quelqu'un qui est bien formé va se former tout seul ensuite.
Yeah. I think what I said at the beginning. In a healthy society, in a healthy story, school is a stage, and the character will pass beyond that stage. If you've got a thing where the whole society is a school, that's kind of sick.
Oui, bah, je peux continuer puisque sur le fait qu'un jour il faut se débarrasser de l'école. C'est que justement, le deuxième tome du Melkin s'appelle La mort du Melkin. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que le vaisseau soit détruit pour que la société évolue et pour que cette civilisation puisse se développer. Donc, on peut aussi. Et que finalement, il a été un temps du monde. Et puis, à un moment, il faut que ça change parce qu'il y a un moment de stagnation si ce système perdure et se reproduit sans qu'il y ait une remise en cause de tout ça. C'est aussi l'éducation, la place de l'éducation doit évoluer.
Estelle ?
Oui, moi je n'ai plus grand chose à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit. La question que tu posais d'une réflexion sur l'individu ou sur la société en général, je pense que la science-fiction explore absolument tout le panel. Et qu'on peut trouver, et c'est ça qui est fascinant avec les auteurs de science-fiction, on peut trouver des auteurs qui explorent l'ensemble des possibilités et qui poussent, et ça évidemment on ne peut pas le faire, heureusement pour la plupart du temps, qui poussent la logique jusqu'au bout pour voir jusqu'où on peut aller effectivement en créant un système qui propose à un élève, ben voilà, tel type d'éducation, et on regarde les conséquences à long terme, et je trouve, mais alors là, c'est. Je trouve que nos politiques, en tout cas tous ceux qui réfléchissent à l'éducation, ne font pas assez. Ne sont pas assez attentifs à ce qui se passe souvent en science-fiction. La science-fiction explore énormément de systèmes avec plus ou moins de bonheur. Et on pourrait, en tout cas, si pas s'en inspirer. Y réfléchir et envisager d'un point de vue prospectif, je dirais, de prendre des élèves à un point donné en se disant, ben voilà, si on les forme de cette façon, qu'est-ce que ça va donner dans 15, 20, 30 ans? Ça, on ne le fait pas souvent. Et je pense qu'on en est à un point aujourd'hui où on ferait bien d'aller regarder un peu ce qui se passe en science-fiction. En tout cas, là, je parle du côté des formateurs, parce qu'on est dans un monde qui a beaucoup, beaucoup évolué. Avec des enfants qui vivent dans un monde qui est très différent de celui de leurs parents, encore plus différent de celui de leurs grands-parents. Et la question va se poser de savoir vers quoi on les amène, ces enfants. Et peut-être que la science-fiction peut être une bonne piste de réflexion, puisqu'elle a déjà fait énormément de travail sur le sujet.
Oui, merci Estelle, ça c'est vraiment le mot de la fin. C'est-à-dire que les politiques feraient bien de regarder un petit peu plus la science-fiction, non seulement pour le système éducatif, mais aussi pour beaucoup d'autres questions de société. Alors avant de clore cette table ronde, est-ce que dans le public, vous avez des questions donc à poser à nos... Ah ben, voilà.
Bonjour. En fait, moi, je me posais une question. Dans la plupart des récits de science-fiction, effectivement, les lieux d'éducation sont des lieux clos, voire autarciques. Mais effectivement, il y a d'autres pistes qui ont été utilisées, par exemple, chez les Jedi ou chez les Sith. Où, par exemple, le lieu d'éducation est plutôt pour les jeunes et très rapidement, ils sortent de ce système-là pour être éduqués vraiment dans le monde avec leur maître. Et je me demandais pourquoi, en fait, les auteurs de science-fiction avaient toujours tendance à enfermer les lieux d'éducation et de ne pas explorer plus cette piste de, bah, de découvrir le monde extérieur, voir l'univers, puisqu'on est en science-fiction, donc on peut voyager, quoi.
Je dirais qu'il y a une sorte de contradiction dans les termes à postuler que le monde est une école. C'est-à-dire que si on sort, on n'est plus à l'école. La logique même de la formation, elle peut être exactement ce que vous avez décrit. C'est-à-dire qu'il y a un lieu au départ qui soit un lieu d'enseignement et qu'au-delà de ce lieu, la formation de l'individu se fait une fois qu'on est sorti. Je crois justement que c'est un des problèmes en termes de représentation, c'est que si on représente une école qui n'est pas un lieu défini à proprement parler, eh bien à ce moment-là, pourquoi la représenter d'une manière ou d'une autre ? On représente simplement la formation de quelqu'un et l'apprentissage de quelqu'un. On n'a pas forcément besoin de considérer à ce moment-là que c'est un acte d'éducation, mais simplement un acte d'évolution d'un personnage.
Oui, peut-être simplement parce que le lieu de formation est fermé pour éviter de finalement que les apprenants subissent des influences de l'extérieur, enfin subissent ou aient des influences de l'extérieur, et puis peut-être pour être protégés aussi de l'extérieur, voyez. Bon, peut-être une idée. Oui, Monsieur Klein.
Oui, c'est pas vrai,
alors,
tu as l'air,
nous allons
effectivement.
Parler d'Einlein. Allons-y.
Oui,
aussi, mais même.
Donnez le micro.
Je laisse Estelle parler d'Einlein, qu'elle connaît admirablement. Et je suis désolé de ne pas avoir trouvé tout à l'heure le titre de Space Suite
ça,
ça, Will
ça,
Travel.
Ça va nous revenir
trop tard.
Je crois
que c'est l'âge des étoiles, mais je n'étais pas certain, parce que j'ai publié beaucoup d'Einlein en livre de poche. Je ne suis pas sûr du tout.
Le vagabond de l'espace.
Le vagabond de l'espace.
Voilà, le vagabond de l'espace. On a retrouvé.
On finira par y arriver. À mon âge, j'ai trop de mémoire. Mais justement, ce qui me paraît caractéristique, tu en parleras mieux que moi, c'est le fait que chez Einlein, les adolescents apprennent à l'école, mais aussi sur le tas.
Oui, et l'exemple typique, c'est Citoyen de la Galaxie. Typiquement, dans Citoyen de la Galaxie, on se retrouve avec un jeune gamin esclave qui est racheté par un maître qui a pour objectif de le former et de l'éduquer. Et il va passer les trois quarts de son temps à mendier. Donc on peut se poser la question, comment en mendiant on va apprendre des choses ? Et Einstein nous montre un jeune qui effectivement mendie, mais dans la rue avec d'autres personnes, et il apprend le fonctionnement de sa société, et chaque personne qu'il rencontre lui apporte énormément. Et il a, en revanche, on parlait de maître tout à l'heure, il a effectivement un adulte qui est un guide dans l'apprentissage et qui lui permet, lorsqu'il fait une bêtise, de rectifier le tir et qui lui apporte les éléments supplémentaires pour permettre de structurer cet apprentissage. Donc on a dans la science-fiction énormément d'approches qui sont présentées. La question d'un apprentissage par un maître, si on a un maître qu'on suit, on a typiquement un Thomas Day qui s'amusait à ça dans La Voix du Sabre. Qui montre là, pour le coup, une formation par un maître qui échoue. Il nous en parlera un peu plus tard dans l'après-midi. Le fait d'avoir un maître et d'être avec un maître, ça veut dire, en fait, qu'on a, pour un adulte, un enfant. C'est un système éducatif qui n'est pas très économe, je dirais.
It's not a school, then. It's an apprenticeship. And an apprenticeship is very different from a school. I was thinking that the previous question, when you're out in the world learning, you're learning in an apprenticeship system, which is also very interesting, which we've also got a lot of in genre, but it's very different from a place of education.
Et je rappelle quand même que quand Luke Skywalker veut pas faire sa formation, et ben il va s'enfermer sur la planète d'Agobah. Hein. On peut pas dire qu'il apprenne sur le tas, même s'il apprend un peu sur le tas de boue, mais c'est pas la même chose.
D'autres questions dans le public ? Non, pas d'autres questions. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons remercier nos participants pour cette table ronde qui est encore une fois très très riche et remercier évidemment le public de son attention. Nous souhaitons une bonne journée.